Bonjour, c'est Maxime, l'hôte du Green Letter Club. Vous le savez, sur le Green Letter Club, on ne fait pas de pub ou de partenariat bizarre. Bref, on est 100% indépendant. Et pour le rester, on a besoin de vos dons. Alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et pour se financer, on organise aussi des fresques du climat ou de la biodiversité et des conférences sur les questions climatiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Un grand merci du fond du cœur et bonne écoute.
Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des ambitions de la filière nucléaire française. Nouveaux EPR ou mini-réacteurs nucléaires, de nouveaux projets émergent pour assurer l'électrification des usages et conquérir de nouveaux marchés. D'où cette question, quelles sont ces technologies qui boostent la filière nucléaire? Pour y répondre, nous recevons Emmanuel Galichet, docteur en physique nucléaire et enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler du nucléaire. C'est évidemment un sujet très clivant. L'idée, c'est pas de parler des problématiques actuelles, de gérer le courant des choses, mais c'est donc on va pas parler de la question des déchets, de la sécurité des centrales actuelles, mais des technologies du nucléaire qui émergent. Et pour nous, c'était important de faire ce sujet parce que qu'on soit pro ou anti-nucléaire, c'est évidemment un sujet important. Première question, est-ce que d'abord vous pouvez commencer par vous présenter, qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites en quelques mots?
Oui, alors donc je suis Emmanuel Galichet et je suis enseignante-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers en sciences et technologies nucléaires. Donc j'ai fait un doctorat en physique nucléaire fondamentale il y a quelques années et depuis je suis au CNAM et je suis responsable de toutes les formations qui ont un lien avec la filière nucléaire industrielle.
Le nucléaire s'est vu comme une technologie extrêmement risquée, en tout cas c'était le cas il y a quelques années, et on a l'impression que l'image du nucléaire profite entre guillemets de la crise climatique pour revenir dans les débats. Est-ce qu'on assiste à un regain, à un boom du nucléaire, à la fois dans l'opinion mais aussi dans la filière elle-même?
Oui, vous avez un peu raison. Effectivement, même dans la filière, je n'y avais pas regardé sous cet angle-là. Effectivement, on a une filière nucléaire qui commence à être à se dire qu'elle a un avenir, ce qui n'était pas le cas hein, les 20 dernières années, on va dire. Donc, elle recommence à travailler, à innover. On va le voir, j'imagine, pendant cette heure d'entretien. Dans l'opinion aussi, il y a eu énormément de changements, mais en fait je m'étais amusée il y a quelques années, même quelques mois, à faire les opinions, vous savez, les sondages de l'opinion publique en fonction des discours politiques des gouvernements successifs. Et on voit que l'opinion publique est très largement sur la partie nucléaire, sur est-ce que je suis pour ou contre, a très largement suivi en fait les politiques là-dessus. Donc depuis le discours de Belfort d'Emmanuel Macron en février 2022, on voit un très net retournement de situation, même dans l'opinion publique, effectivement, avec aujourd'hui, sur les derniers sondages OpinionWay, à peu près 70% des Français qui sont d'accord pour continuer le nucléaire et pour construire des nouveaux réacteurs.
Alors quand on parle de nucléaire, on parle de technologie, on parle toujours des générations, première, deuxième, troisième, quatrième génération. Concrètement, on va naviguer dans toutes ces générations au fil de l'interview. Donc est-ce que vous pouvez simplement expliquer quelles sont ces générations?
Donc ce qu'on appelle génération 1, c'était la première des centrales, c'était les premiers réacteurs que nous avons qui ont été construits, qui sont des UNGG. Uranium, naturel, graphite, gaz. Donc ça, c'était la première des filières de réacteurs que la France a essayé. C'était intéressant à l'époque parce qu'il n'y avait pas besoin d'enrichissement du combustible et on ne savait pas le faire encore. Donc on avait travaillé sur une filière qui nous permettait d'utiliser l'uranium naturel. Ensuite, dans les années fin 60, début 70, les gouvernements à l'époque ont choisi d'acheter un brevet aux Américains, à Westinghouse, et de utiliser ce brevet, qui était donc nos REP actuels, les réacteurs à eau pressurisée, qui avaient été développés par l'industrie et le monde de la recherche aux États-Unis. Donc le premier des réacteurs, hein, en fait, c'est pas un réacteur d'électricité, c'était bien un réacteur de propulsion pour les sous-marins américains. Donc au niveau électrique, la France prend ce brevet et commence à faire ce qu'on appelle des paliers. Donc les 900 mégawatts étaient les premiers, Fessenheim était donc une des premières. Bon, on a essayé d'autres, juste entre parenthèses, on a essayé d'autres filières, on a essayé le réacteur à eau bouillante aussi. Mais bon, finalement, c'est l'eau pressurisée qui a semblé aux ingénieurs de l'époque la filière la plus sûre, la plus maîtrisée et la plus facile à construire, etc., et la plus exploitable, etc. Et ils ont eu raison, puisque aujourd'hui, plus de 80%, finalement, même 90% des réacteurs aujourd'hui à travers le monde sont des réacteurs à eau pressurisée, eau légère. Donc, c'était,
voilà. Et 100% en France.
Et en France, c'est à 100%, effectivement. Génération 3, c'est ce qu'on appelle l'évolution du parc. C'est l'EPR de Flamanville. Alors au début, l'histoire de l'EPR de Flamanville, elle est un peu dramatique quelque part. Elle est liée aussi à l'histoire du couple franco-allemand en Europe. Donc au début, dans les années 87-89, c'était un réacteur franco-allemand. Donc avec toutes les spécificités...
D'ailleurs, c'est European...
Pressure de réacteur, qui est devenu maintenant Evolutionary Pressure de réacteur. Donc...
Oui, parce que la relation, pour expliquer, la relation avec les Allemands s'est terminée et il n'y a que les Français qui ont continué la technologie.
Absolument, absolument. Donc à un moment donné, c'était notamment Siemens qui était très impliqué et Areva avec sa partie allemande était très impliqué dans cette EPR. Ils ont décidé, sur des décisions politiques allemandes, de se retirer de la filière nucléaire industrielle. Et donc les Français ont repris le concept, mais il était déjà bien avancé sous la pression politique aussi, hein, à l'époque, il fallait remontrer que la France était capable de construire. Ça faisait une vingtaine d'années qu'on n'avait pas construit et on devait partir à l'export absolument. Il y avait à l'époque, c'était la grande époque d'Areva avec un pouvoir politique très fort et qui avait envie de repartir à l'export. Donc l'EPR a été décidé d'être construit à Flamanville sur les plans finalement franco-allemands, donc avec des spécificités allemandes qui nous intéressaient pas du tout en fait, hein, nous les Français, mais qui avaient été des exigences allemandes, et donc on les a gardées. Donc ça fait un réacteur en fait extrêmement compliqué à construire. Extrêmement compliqué à construire. Les Allemands voulaient pouvoir rentrer dans les salles, maintenir l'exploitation, la production électrique en même temps que faire de la maintenance dans le bâtiment réacteur. Donc ça voulait dire qu'il ne fallait pas avoir 3 trains, mais 4 trains pour qu'il y en ait un. Comme vous savez que sur la sûreté, pardon, il faut juste donner une indication sur la sûreté. La sûreté est basée sur la défense en profondeur. Un des concepts de la défense en profondeur, c'est d'avoir 3 barrières physiques entre la radioactivité et l'environnement. Donc il y a la gaine de combustible, le circuit primaire et l'enceinte de confinement. Et tous les équipements qui sont importants pour la sûreté vont être on dit qu'on fait des redondances. On va en mettre plusieurs et notamment en général 3 équipements diversifiés, pas du même fournisseur, qui font le même usage, mais pas au même endroit. Enfin, vous voyez, ça commence à devenir un peu compliqué, hein. Et donc, sur cette EPR de Flamanville, il a fallu multiplier les équipements, multiplier les zones géographiques, etc., etc. Pour la suite, ce qu'on va appeler Génération 3+, par exemple, c'est les EPR2. Alors là, on est les Français tout seuls. Et on a décidé, vu le fiasco quand même, hein, de la construction de Flamanville, il y a eu un rapport, le fameux rapport FOLS en 2019, qui a dit, il faut revoir des choses quand même, hein. Donc on a, les ingénieries de la filière nucléaire se sont mis autour d'une table et ils ont revu pas mal de choses. Et donc c'est ce qu'on appelle une évolution de l'EPR. Donc on garde la même sûreté, mais on simplifie certaines choses. On remet on fait une constructibilité plus simple, c'est-à-dire on remet les murs droits, quoi. En gros, c'est pour que le génie civil soit quand même beaucoup plus simple à construire. Et puis surtout, on va enlever toutes les exigences allemandes qui nous embêtaient. Donc, c'est la génération 3+.
Non, mais du coup, je pensais l'aborder tout à l'heure, mais on restons sur l'EPR juste, puis on abordera la quatrième génération après. Simplement, vous le disiez, ça a été un fiasco, l'EPR. On est passé de 3 milliards de budget initiaux à plus de 19 milliards. Il va bientôt rentrer en service, donc il y a eu des dizaines d'années de retard. C'est vrai en France, c'est vrai sur l'EPR en Finlande. C'est vrai aussi en Chine, même si les retards sont beaucoup moins importants. À court terme, quand même, ce qui a été décidé, c'est de construire ces EPR2. Mm-hmm. Combien de réacteurs, quel chantier, quel budget prévisionnel et quelles espérances de ne pas renouveler ce fiasco?
Oui, c'est fondamental. Vous avez totalement raison. Donc aujourd'hui, le programme, c'est trois paires de deux EPR2, donc six EPR2 avec une option de 8 en plus à l'étude. Mais aujourd'hui, c'est trois sites, Penly, Gravelines, Bugey, qui devraient accueillir donc deux EPR2 chacun. Donc, on reste sur la même puissance, on reste sur la même chose, sauf que, bon, comme je vous l'ai dit, on simplifie plein de choses. Le budget total, alors là encore, c'est extrêmement difficile. Jusqu'à présent, le dernier rapport d'audit avait donné, en gros, 52 milliards. Là, dans la presse, on voit sortir des chiffres autour de 67 milliards. C'est compliqué parce que chiffrer un programme de cette ampleur-là, c'est pas juste chiffrer combien va me coûter le génie civil. Je peux vous donner tout le génie civil, les cuves, la cuve, combien ça coûte, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est un coût qu'on dit, on dit un coût total qui vont prendre aussi les assurances, l'ingénierie en amont de la construction. Toute la partie risque qui est aujourd'hui pas du tout sereine, hein, cette partie risque elle est compliquée puisque justement l'EPR de Flamanville a tellement fait déchanter tout le monde que maintenant tout le monde met des milliards en plus quand on leur demande de donner leur ardoise, quoi. Donc on est vraiment trop au début de l'EPR2 pour avoir un coût réel sans une énorme incertitude. L'incertitude la plus grande, elle vient aussi, par exemple, juste pour bien faire sentir cette problématique-là, quand vous faites un contrat avec un fournisseur, vous lui dites, ben voilà, moi je vais t'acheter 3 ou 4 GV ou 100 000 pièces détachées pour toutes mes portes. Le fournisseur, il se dit, oulala, avec Flamanville, ça s'est super mal passé. Donc, au lieu de lui dire, ben, ma poignée, elle sera à 10 euros la poignée, ben, je vais me mettre des marges. Je vais dire, ben, ça va faire 20 euros. Donc là, évidemment, EDF, il dit, je fais mon calcul et puis je me retrouve avec une estimation énorme. Donc tant que le basic design, c'est-à-dire les études d'ingénierie, ne sont pas complètement bien maîtrisées avec les spécifications techniques de tous les équipements, bien noir sur blanc, vous ne pouvez pas avoir une estimation de coût sans erreur, complètement disproportionnée. Donc aujourd'hui, on est bien trop tôt pour avoir un vrai coût. Ça sera peut-être plus que 67, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut que les études soient terminées. Donc il faut laisser les ingénieurs continuer à travailler sur ce qu'on appelle le basic design, avec les catalogues de tous les équipements, combien, par exemple, les pompes, quelles seront-elles, les spécifications de chacune des pompes, le vide, tout ça. À un moment donné, EDF a dit qu'ils allaient stabiliser ce basic design et ne plus jamais y retoucher. Sur Flamanville, on a retouché au fur et à mesure de la construction le basique, les plans d'ingénierie. Donc ça c'est pas du tout, ça va pas ça. Donc ils vont le stabiliser et ensuite, quand tout sera bien clair, ils vont aller passer des contrats et là on va pouvoir avoir une estimation d'un coût à peu près correct.
Et donc l'EPR, donc il y en a un qui est, il y en a trois mises en service si je dis pas de bêtises dans le monde, deux en Chine
et un en Finlande.
En Finlande. C'est quoi la différence et c'est quoi la différence des EPR2 en termes de sécurité par rapport à ce qui existe aujourd'hui ?
Alors, vous me parlez de sécurité ou de sûreté ?
De sûreté.
De sûreté. Donc, il n'y a pas de différence au niveau de la sûreté. C'est le même niveau de sûreté d'un EPR et un EPR2. Il n'y a pas de diminution, ça c'est sûr. Mais là, on est resté sur le même niveau de sûreté, c'est-à-dire qu'on évite au maximum, qu'il y ait des déplacements de population autour des sites. C'est-à-dire que si malgré tout, toutes les barrières qui ont été mises, aussi bien physiques qu'organisationnelles, il y a une fusion de cœur, donc avec des problématiques de rejet à l'environnement, il n'y a pas de rejet à l'environnement en fait. Ça reste dans l'enceinte de confinement et on ne déplace pas les populations parce que c'est ça qui coûte cher et c'est ça qui est dramatique en fait, qui est le plus dramatique. Le cœur sera fondu, le réacteur sera inutilisable, ok, mais on ne déplace pas les populations. Donc c'est ça en fait le but ultime finalement de la sûreté nucléaire aujourd'hui.
Alors maintenant on va parler de la quatrième génération. Qu'est-ce que cette fameuse quatrième génération ?
Ouais, alors la quatrième génération, elle englobe plein deux grandes parties, je dirais. Elle englobe, parce qu'en fait, on est parti dans une nouvelle direction. La génération 4, il y a encore 4-5 ans, voire 10 ans en arrière, c'était vraiment des solutions techniques, mais c'était plutôt des grands réacteurs. On était resté sur l'idée que c'était quand même plus intéressant de faire des grands réacteurs, parce que ça coûte moins cher, plus vous augmentez la puissance, plus votre coût diminue. Je dirais que les trois grandes catégories, c'était les neutrons rapides, les hautes températures et les sels fondus. Hein. Donc ça, c'est vraiment des solutions technologiques en attendant aussi, on peut dire, la fusion, mais ça, on va le laisser de côté. Donc ça, c'était ça, les gènes 4, ce qu'on appelait les gènes 4. Aujourd'hui, c'est devenu un peu différent. On est reparti sur des réacteurs plus petits. Je pense que ça aussi, c'est une question d'actualité politique, économique. Hein. Les États ont plus beaucoup d'argent. Les pays industrialisés ont plus les moyens financiers. Deux, la décarbonation et l'énergie, elle sert à tous les pays. Et elle sert aussi à des pays émergents qui ont moins de finances et qui ont parfois aussi des structures de réseau pas du tout adaptées à des gros réacteurs. Donc on est parti, la filière nucléaire est partie sur un concept de petits réacteurs. Dans ces petits réacteurs, vous avez soit je fais pareil que les gros, je miniaturise, soit je fais différemment et j'utilise toute la recherche et développement qui avait été fait dans le cadre du forum Gen 4 de l'époque, je l'utilise, mais pour faire des petits réacteurs.
Donc là, on parle juste pour bien comprendre et balayer, on parle des Small Modular Reactors, donc des SMR. Donc dans les SMR, il y a des réacteurs qui sont les mêmes que ceux qui existent, qui vont être miniaturisés, et d'autres d'autres projets qui vont utiliser des technologies qui ne sont pas encore matures et sur lesquelles vous avez commencé à parler, des sels fondus, les neutrons rapides, etc.
Et on les appelle des AMR dans ce cas-là, Advanced Modular Reactors.
On va parler des SMR, parce qu'il me semble que c'est plus important, disons, d'un point de vue à court terme. Si je ne dis pas de bêtises, les autres types de réacteurs, c'est plus prospectif pour le moment, alors que les SMR, on voit que certains pays s'y intéressent. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des SMR ou est-ce que ça n'est pour l'instant que des PowerPoint ?
Non, il y en a déjà qui sont construits, qui fonctionnent en Chine et en Russie. Et d'ailleurs même des AMR, hein, les réacteurs à neutrons rapides, notamment en Russie, ça fonctionne. La Chine a aussi mis en exploitation un haute température. Donc les SMR et les AMR, il y en a certains qui sont déjà construits. Et en Argentine, par exemple, juste parce qu'on parle toujours Russie, Chine, USA, etc. En Argentine, il y a déjà un SMR qui a débuté sa construction dans les années 2014, qui a été arrêté pour problématiques financières et qui est en train de repartir sur la construction. Donc, c'est possible que finalement, même l'Argentine, vous voyez, qui aura un SMR assez rapidement.
Alors, pourquoi on parle autant des SMR en ce moment ? Pourquoi c'est un des grands espoirs de la filière nucléaire ?
Je pense que c'est un espoir pour tout le monde. Il y a un débat qu'on oublie de mener, notamment en France, Il y a deux pays au monde finalement, deux pays vraiment, où l'énergie est un peu nationalisée. C'est la France et la Russie, quelque part. On est assez voisins sur notre structure de l'énergie électrique, en tout cas. Donc, on a toujours pensé en France que l'énergie électrique, c'était un réseau national avec un seul exploitant et on allait, grâce à l'État, relier toutes les petites maisons et toutes les petites industries jusqu'au plus loin dans les campagnes. Le SMR vient sur une nouvelle idée. Qui n'a pas été finalement la filière industrielle nucléaire, mais qui était les énergies renouvelables intermittentes, comme le solaire et l'éolien, qui se sont dit, pourquoi pas faire des solutions de production électrique dans les territoires, voire pourquoi pas dans ma maison. Aujourd'hui, la loi l'interdit, hein, puisque quand vous avez des panneaux solaires sur les toits de vos maisons, vous devez revendre à EDF, qui ensuite, etc. Mais... Quand je disais qu'il manque un débat, bah c'est peut-être celui-là, en fait. Dans les autres pays, que ce soit aux USA ou dans d'autres pays, en fait, le marché est privé. Il y a plein d'exploitants, il y a plusieurs exploitants. Et donc, chacun, chaque région, chaque État choisit sa politique énergétique au niveau de la production électrique. Et donc, on peut imaginer, si ce débat a lieu et qu'un jour, en France, on se dise pourquoi pas ? Chaque région est maître et garant de sa production électrique de manière absolument quasi autonome. On pourrait imaginer que des SMR pourraient être une possibilité pour des régions. Les SMR, ça peut être une possibilité pour des régions dans des pays très peu denses, mais avec peu de réseaux, comme dans les déserts, comme au Canada avec des régions très reculées, en Russie aussi avec des régions très reculées, où ils n'ont pas accès au réseau national. Et donc là, vous mettez, c'est ce qu'ils font d'ailleurs en Sibérie, hein, ils mettent un petit réacteur qui va permettre de répondre aux besoins de populations locales. Donc c'est cette idée-là, en fait, le SMR. Réacteur à eau pressurisée, hein, la miniature. Parce que là, vous êtes sur un réacteur de moins de 300 mégawatts électriques. Ça coûte moins d'un milliard. Donc, vous voyez, moi, j'ai l'habitude de dire 10 milliards un EPR de 1 gigawatt. Vous faites un facteur 10 sur le prix. Bah, pour certains pays émergents, c'est capital. Aujourd'hui, ils sont au charbon. Sur la production d'électricité. Hein. Le charbon est partout, quasi au travers le monde, pour produire de l'électricité. Vous avez plus de 3000 centrales à charbon qu'il va falloir absolument arrêter. Des SMR peuvent remplacer. La centrale à charbon, c'est à peu près 300 mégawatts. C'est pour ça que c'est le SMR, son marché principal, c'est bien remplacer les centrales à charbon.
Oui, d'ailleurs, ça c'est intéressant, mais on voit que dans la politique de ceux qui promeuvent le SMR, notamment en France, l'idée c'est d'aller, par exemple, taper à la porte des pays de l'Est, dans les pays qui sont intéressés. Alors j'ai plus la liste exacte en tête, mais la plupart des pays intéressés, c'était des pays, Bulgarie, peut-être Pologne, enfin ce type de pays, République tchèque, si je dis pas de bêtises. Les SMR, ils visent aussi pour les exploitants français, il y a un but d'exportation, il y a aussi le but de créer une filière industrielle autour de SMR.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment énormément de buts. Et puis en plus, comme c'est vraiment en plein dans l'actualité, les gens réfléchissent, ils se disent mais pourquoi pas, on peut essayer ça, on peut essayer par exemple la chaleur, on va en parler juste après. Mais effectivement, l'export était à la base des SMR, c'était l'enjeu numéro un. C'était vraiment aller remplacer les centrales à charbon. Et ça, c'est louable parce que le charbon, il faut vraiment qu'on arrête. Donc ça, c'était la première idée. Et de toute façon, pour faire un SMR, il y a besoin, comme pour un gros d'ailleurs, il y a besoin d'une supply chain, hein, des fournisseurs, des gens, toute une panoplie d'entreprises qui vont permettre de produire aussi bien les équipements, le combustible, etc. etc. Donc vous avez bien un intérêt très fort de créer sur votre territoire également toute la chaîne d'approvisionnement parce que, ça vous permet d'être souverain, Deux, ça permet de réindustrialiser votre pays, et ça c'est une des quand même des souhaits du gouvernement qui est absolument importante. Et trois, il y a quelque chose qu'il faut sur lequel il faut absolument appuyer avec le nucléaire, c'est que ça donne des métiers de haute valeur ajoutée avec de grandes compétences. Hein, c'est une industrie de haute technologie, et donc ça permet des métiers où on gagne mieux, quoi. Hein, donc c'est quand on fait une politique industrielle, une politique de réindustrialisation, il est beaucoup plus intelligent de se baser sur des industries de haute technologie plutôt que des industries simples, moins voilà, où les métiers sont plus simples, quoi. Donc c'est pour ça aussi que la France s'est lancée dans cette course.
Est-ce que nous, on a prévu d'en construire en France ? Et un des grands sujets des SMR, et ça fait écho aux problématiques de construction de l'EPR de Flamanville, c'est justement une des promesses avancées par les industriels, c'est le fait de pouvoir les produire en série dans des usines. Pour qu'on s'imagine, c'est à peu près, c'est quoi la taille d'un SMR ? Est-ce que c'est vraiment faisable de manière industrielle en usine ?
Alors, oui, c'est faisable. La Chine l'a fait. La Chine a déjà sur son territoire l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour des SMR. Donc oui, c'est possible. C'est pas difficile. Il faut de l'argent, il faut des gens. L'idée, c'est bien de diminuer le coût, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est encore trop cher. Hein ? On a des SMR qui sont encore trop chers pour la plupart des clients de ce produit. Donc, il faut descendre le prix. Et l'idée, c'est évidemment, de quand vous construisez en usine, vous diminuez votre prix drastiquement par rapport à quelque chose qui serait fait à côté du chantier ou encore quelque chose que vous devez faire sur le chantier. Vous avez des facteurs, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est un facteur 3 ou un truc comme ça, peut-être voire plus, entre le fait de le faire en usine et de le faire sur le chantier. Donc l'idée, le chantier c'est compliqué, il y a toutes les problématiques de coactivité, etc. Ça c'est compliqué à gérer. Là vous faites vos armoires électriques, vos tuyauteries d'un certain système, etc., dans vos usines, et puis vous prenez un camion et vous les assemblez comme des Lego, quoi, comme une cuisine IKEA sur le site. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, un, comme c'est plus petit et que c'est fait en usine, vous pouvez contrôler beaucoup, beaucoup mieux la qualité de ce que vous faites en usine plutôt que quand c'est sur un terrain.
Sur les délais de construction, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, si on part de l'hypothèse que l'énergie nucléaire est une énergie bas carbone, ça là-dessus il n'y a pas de débat, on part de l'hypothèse qu'elle est souhaitable, là-dessus il y a évidemment des opinions très différentes, mais le nerf de la guerre c'est aussi le délai de construction, parce que on est en train d'électrifier massivement les usages, donc il va nous falloir beaucoup d'électricité et à des horizons qui ne soient pas les horizons prospectifs 2040-2050, s'ils nous en font rapidement. Est-ce que les SMR peuvent répondre à cette problématique, c'est-à-dire de voir des centrales rapidement mises en service, mises sur le marché ?
Aujourd'hui, alors en France, le réacteur SMR le plus avancé, c'est Nuard, le plus mature. Et d'ailleurs, on n'en a qu'un, hein, sur le SMR pur. Ce qu'ils disent, c'est, allez, 2035, peut-être qu'on pourra aller à 2030 en accélérant des choses. Mais vous voyez qu'il y a des périodes incompressibles, notamment les exigences de l'autorité de sûreté, la validation des dossiers par l'autorité de sûreté nucléaire, etc. Tout ça, ce sont des durées incompressibles. Un chantier, vous ne pouvez pas le faire en 12 mois, quoi. Je crois que Nuward, c'est 94 mois, où ils annoncent 94 mois. Ça, c'est incompressible. Ils vont essayer sûrement d'aller le plus vite possible. Mais ça arrivera quand ça arrivera. Moi, j'ai l'habitude de dire quand même, après 2030, il y a encore du réchauffement climatique. Après 2050, il y a encore du réchauffement climatique. Surtout qu'il y a certaines productions d'électricité, notamment les éoliennes ou les panneaux solaires, qui, eux, ont des durées de vie entre 20 et 30 ans. Donc, il y a un moment donné, il faudra aussi les changer. Donc, on aura toujours cet effet d'avoir des dates butoirs où on fait des nouvelles choses, on change, on prend des choses nouvelles, etc. Donc, les réacteurs nucléaires, je dirais, les SMR, ils arriveront quand ils pourront être là, quoi. C'est pas ça le point important, c'est de le développer de manière sûre, économiquement intéressant, et qui puisse répondre à un vrai besoin. Et le deuxième besoin, parce qu'en France, finalement, vous dites, bon, vous avez un gros réseau électrique national, il n'y a pas énormément d'intérêt à mettre des petits réacteurs pour l'électricité. Il vaut mieux conserver notre parc le plus longtemps possible, le maintenir dans un bon état de sûreté, le changer avec les EPR2 quand il y aura certains réacteurs au fur et à mesure qui ne tiendront plus la route. Mais l'intérêt, c'est quand même aussi l'industrie. L'industrie et notamment la chaleur. Il faut en parler vraiment de manière forte parce que finalement, vous avez les hydrocarbures qui est quand même le point noir central dont il faut absolument abandonner l'utilisation. C'est un, le pétrole pour les voitures, pour le transport, on va dire. On peut en parler parce que le transport, il y a le transport maritime aussi où les SMR ou les AMR peuvent avoir un rôle à jouer. Donc le transport, c'est le pétrole. Il faut tout arrêter. Qu'est-ce qu'on fait en France ? On électrifie les voitures au maximum. Les trains, c'est déjà fait. Après, donc, il faut tous les bus et les camions. Hein, il faut absolument. Puis après, il y a le transport maritime. Le transport maritime, pour l'instant, c'est très, très, très pétrole hein, quand même. Hein. Donc là, il y a des solutions. Il va falloir décarboner. Et le micro-réacteur est une idée parce que c'était la première utilisation des réacteurs nucléaires. C'était bien la propulsion. Donc ça, c'est le transport. Et puis après, l'autre partie où il faut vraiment décarboner, c'est l'industrie et le chauffage résidentiel et tertiaire. Hein, il n'y a rien à faire. L'industrie, c'est la chaleur, l'électricité, en tout cas chez nous, les énergo-intensifs, on les appelle comme ça, ils sont sur le réseau, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Mais par contre, la chaleur industrielle, elle est très, très carbonée, au-delà de 60%, c'est vraiment... Et elle compte pour à peu près, si je me rappelle bien, si j'ai bien appris ma leçon, c'est autour de 45% quand même de l'énergie totale consommée en France. Donc il y a quand même tout ça, c'est de la chaleur. C'est de la chaleur industrielle et résidentielle et tertiaire.
Ah oui, en D'accord. incluant les...
En que... incluant, ouais. Voilà. 45% et à peu près 60%, donc largement carboné.
Et effectivement, donc, ça serait quoi ? Ce serait typiquement des aciéries ouais. qui utilisent du charbon, c'est ça l'objectif ?
Ils utilisent beaucoup de gaz, en fait.
Pardon,
c'est du gaz.
Ouais, du gaz. Ouais. Non, je pensais au niveau mondial, justement, c'est beaucoup du charbon, beaucoup de gaz en Europe. En Europe de l'Ouest, ça veut dire concrètement pourquoi, quel intérêt de faire du nucléaire pour faire de la chaleur ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire avec de l'électricité concrètement, cette très haute chaleur ?
C'est vos bouilloires électriques ou à gaz, quoi. Vous pouvez mettre vous pouvez utiliser l'électricité pour aller faire de la chaleur, mais en fait, le réacteur nucléaire, il sort de la chaleur déjà. En fait, hein, on est bien d'accord, il chauffe de l'eau, donc il a de la vapeur d'eau. Donc en sortie d'un cœur de réacteur, vous avez de la chaleur. Soit vous utilisez pour aller dans la turbine et vous avez un rendement d'un tiers, donc vous perdez deux tiers de chaleur, soit vous utilisez toute la chaleur pour faire de la chaleur, puisque c'est de la chaleur. Donc là, c'est assez génial.
Mais c'est de la chaleur à quelle température ?
Alors,
c'est pas de la très haute chaleur comme pour faire de la sidérurgie, par
Absolument.
Exemple.
Absolument. Absolument, vous avez totalement raison. Là, il faut choisir son réacteur. Vous avez, en fait, j'ai l'habitude, moi, dans mon cours, de dire il y a trois chaleurs différentes. Basse température, en dessous de 200-250 degrés. La moyenne, autour de 250-500. Et puis après, la haute, allez hop, jusqu'à 1000-1200 parfois, hein, degrés. Donc, effectivement, tous les réacteurs ne font pas de la haute température. Les réacteurs SMR type Newar ne font une chaleur de basse température. Donc ils ne peuvent pas accéder à toutes les industries, ils ne peuvent pas proposer de décarboner toutes les chaleurs industrielles. Si vous voulez décarboner les aciéries, la chimie un peu haute température, les choses comme ça, la métallurgie, eh bien il faut aller au-delà de 800 degrés. Là, c'est ce qu'on appelle les réacteurs AMR, cette fois-ci, de haute température. Là, vous n'avez plus de l'eau, mais vous prenez un gaz comme caloporteur qui donc permet des plus hautes températures.
Je voulais juste revenir sur la question des prix. Quand j'ai regardé, c'est difficile d'avoir des informations fiables sur ces sujets. Alors je regarde les sources qui me sont accessibles. Dans le rapport du GIEC, ils disent, je vais citer ce qu'ils disent quand même sur les SMR. Ils disent, comme les SMR sont en développement, il y a une forte incertitude substantielle autour des coûts de construction. Les promoteurs estiment que les premiers réacteurs de ce type produiront le mégawattheure entre 131 et 190 dollars américains. Les effets d'apprentissage des premiers exemplaires pourraient réduire les coûts de 19 à 32%. Ça veut dire quand même qu'on ne s'attend pas, en tout cas ce que nous dit le GIEC, à des coûts qui s'effondrent industriellement. Ça restera cher, ces technologies-là.
Ouais. Mais oui, c'est de la haute technologie. Vous ne pouvez pas... Il y a des choses qui sont incompressibles, évidemment. Toutes les problématiques. Dans un cœur de réacteur, les deux postes, quand vous construisez une centrale, un cœur, les deux postes hyper importants, autour de 30% du prix, c'est le génie civil... Et tout ce qui est les tuyaux, les pompes et les tuyaux. Donc, quand je parle des tuyaux, c'est aussi toute la tuyauterie, toute la soudure, etc. Toutes ces choses-là qui sont faites vraiment de manière très, très minutieuse. Ça coûte de l'argent. Et vous ne pourrez pas, dans un SMR, c'est la même chose. Il y en a un peu moins, évidemment. Mais comme vous faites moins de puissance, donc obligatoirement, vous voilà. Donc, effectivement, l'effet de série, il est important. Il faut le trouver. Mais pour l'instant, il n'y a aucune étude. Moi, je n'ai pas vu d'étude économique qui me dit à partir de combien de SMR, mon effet de série, je le ressens sur le coup. Je ne sais pas trop. C'est 10, c'est 20, c'est 100, je ne sais pas. Donc, et ça doit sûrement, ça dépend tellement aussi de la supply chain, ça dépend des environnements industriels, etc., des fournisseurs. Donc ça, personne ne le sait. Et vous avez raison de dire, pour l'instant, les SMR, sur le coup, c'est encore papier, quoi. Hein, il faut faire un prototype. Il faut qu'on en construise un pour voir, et puis qu'on additionne quoi, tous les chiffres, tous les coûts, et voir un petit peu où on en est. Parce que c'est beaucoup trop... C'est vrai que ce n'est pas parti dans les années 60, les SMR. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un concept nouveau, tout le monde le sait. Donc, à l'époque, on a dit, on voit bien que c'est évidemment des gros qu'il faut faire, parce que voilà. Donc, maintenant, il faut en faire, il faut montrer que la modularité fait vraiment diminuer le prix et il faut continuer à avoir cet effet d'entraînement qui permet finalement d'aller faire des gestes plus rapides parce que mieux entraînés, etc., etc. La perte de compétences, on ne le dira jamais assez, et ce n'est pas que dans le nucléaire, la perte de compétences, elle est dramatique, mais dramatique pour l'industrie. Et ça, en France, c'est encore aujourd'hui une vraie problématique.
Quand on regarde les SMR, on peut se dire, mais en fait, c'est une multiplication du nombre de réacteurs nucléaires, vous le dites, on va en mettre sur des bateaux, on peut multiplier, c'est-à-dire en mettre dans des zones industrielles. Quel est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur la sûreté des SMR, et est-ce que ça ne développe pas justement le risque d'une prolifération, le fait d'avoir des réacteurs nucléaires un peu partout?
Alors, ça va multiplier évidemment les points où vous aurez de la radioactivité dans un cœur de réacteur maîtrisé, parce que vous aurez toujours une enceinte de confinement. Donc ça, le danger est maîtrisé de la même manière dans un gros que dans un petit. Donc, si vous êtes, si vous pensez que c'est maîtrisé sur un gros, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas sur un petit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y aura un débat à faire, il y aura des choix politiques et industriels à faire sur qui exploite ces réacteurs si le choix politique est de dire j'ouvre mon réseau électrique ou je fais de la chaleur nucléaire, on peut l'appeler comme ça, etc., etc. Donc là, il y aura effectivement à prendre des décisions sur qui exploite et quelles sont les exigences que je demande à mon exploitant. Tout ça, l'ASN et même l'AIEA, si vous allez sur le site de l'AIEA, elle a...
L'Agence internationale.
L'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont produit des gros documents pour dire, voilà, vous êtes un pays primo-entrant, ça veut dire que vous n'avez pas de nucléaire encore aujourd'hui chez vous, ou vous n'en avez que un ou qu'un réacteur de recherche.
Oui,
qu'est-ce qu'il faut ?
Il y a une trentaine de pays qui ont du nucléaire sur leur sol.
Absolument. Mais il y en a plein d'autres, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont dit, ah tiens, moi ça m'intéresse. Eh bien, ceux-là, avant de pouvoir construire sur leur sol, ils vont devoir répondre à plein d'exigences de la part de l'AIEA, de leur, il va falloir qu'ils construisent une autorité de sûreté, il faut qu'ils construisent un écosystème universitaire, de formation professionnelle, des choses comme ça, qui peut-être ils n'ont pas encore. Donc vous voyez qu'il y a quand même, avant d'arriver à être une nation nucléaire, je dirais, il y a quand même beaucoup d'étapes à franchir, et c'est pas évident que tout le monde puisse le faire.
Admettons qu'il y ait par exemple un accident sur un SMR, est-ce que ça aurait la même portée qu'une centrale de 1300 mégawatts par exemple?
Oui. Non, effectivement, on n'a pas du tout parlé de la sûreté. Alors, la plupart des concepts, et notamment Nuward en France, ils se basent pour leur sûreté nucléaire sur ce qu'on appelle la sûreté passive, c'est-à-dire que j'utilise la physique pour répondre à des problématiques d'augmentation de température ou de pression. On sait qu'en sûreté nucléaire, en fait, la plupart du temps, d'ailleurs, dans tous les accidents nucléaires, c'est quand même la main de l'homme qui a fait dérailler l'évolution du réacteur. Donc, l'idée de passer par la sûreté passive, elle est absolument incontournable. Je dirais qu'elle est vraiment, elle permet vraiment de se dire, ah ben là, même si j'ai une augmentation de température, de toute façon, la physique va faire que ça va me faire redescendre ma température. Ça peut être la convection naturelle, ça peut être plein de choses, quoi. Hein. Mais en tout cas, cette sûreté passive, elle est vraiment, elle est fondamentale. Et un autre point...
Et comment ça se manifeste concrètement ?
Bah, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Sur des gros réacteurs, vous avez des pompes. Hein, donc vous, par exemple, si vous voulez évacuer la chaleur, vous êtes ce qu'on appelle en convection forcée. Donc vous mettez une pompe et ça fait tourner l'eau et donc la chaleur va être évacuée beaucoup plus de manière efficace. Si vous êtes sur un petit, comme votre puissance est bien plus petite, hein, vous passez de 1 gigawatt à 300 mégawatts, parfois même moins. Donc vous avez moins d'évacuation, moins de problématiques pour évacuer. Donc vous pouvez être simplement sur des différences de température et donc utiliser ce qu'on appelle la convection naturelle. Simplement, c'est la physique. Quand vous avez deux endroits avec deux températures différentes, vous allez avoir équilibre et le chaud va vers le froid, quoi. Donc c'est la physique, quoi. C'est la thermo. Hein. Donc on ne peut pas lutter contre. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez... Même s'il n'y a plus d'opérateur, il n'y a pas d'opérateur sur le site, etc., votre réacteur, il va s'équilibrer simplement. Et l'idée aussi hein, d'avoir moins de puissance, évidemment, vous évacuez moins de choses, quoi. Hein. Vous avez un facteur, vous avez un facteur presque de 100 tonnes de combustible, 30, vous diminuez largement votre problématique.
Non, il y a un autre sujet que je voulais aborder là-dessus, c'est effectivement, vous avez un peu parlé de Nuward, donc Nuclear Forward, le projet de EDF, de Small Modular Reactor. Vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a une forme d'émulation sur ce sujet-là dans le monde. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a des grands projets américains, russes, chinois ? Quels sont les projets les plus avancés sur les SMR ?
Bah, je dirais que les projets de SMR les plus avancés sont les pays déjà nucléaires, donc les États-Unis. Je crois qu'il y a plus de 14 ou 15 projets simplement aux États-Unis. La Chine, elle essaye tout. Et elle a décidé de tout construire chez elle. Donc ça, c'est hyper important parce qu'elle a mis la souveraineté industrielle comme premier enjeu, en fait, hein, la Chine. Et puis, il y a la Russie aussi, qui est quand même très en avance, sa barge avec donc cette espèce de bateau avec son, le SMR, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est en fonctionnement. Donc je dirais que c'est... Il y a l'Angleterre, hein, avec Rolls-Royce, pardon, qui est aussi bien en avance. Donc on a les Français ont quelques concurrents, oui, ça c'est sûr. Malgré tout, le projet phare, je dirais, américain, c'est New Scale, bien qu'il ait eu une petite problématique où il a perdu un client, il n'est pas du tout terminé, hein, il n'est pas fini. Hein.
Ok, moi j'avais compris que le coût était trop important et du coup qu'il
non,
était...
Non, il avait plusieurs clients, je crois une dizaine de clients, il y en a un qui a décidé que pour l'instant c'était financièrement pas acceptable, mais ça ne veut pas dire que les autres...
Parce que les coûts étaient trop importants.
Parce que ouais. Les coûts étaient trop importants, mais ça va repartir quoi. Ils ont d'autres clients et il est absolument inconcevable que les US arrêtent la course au SMR. Ça, à mon avis, ça va pas être possible. Donc voilà. Après, la Chine, comme je vous le disais, donc ils ont pas mal de ils ont tout essayé. Donc ils ont un haute température qui fonctionne. Ils ont des petits réacteurs à eau pressurisée qui fonctionnent et qui sont en train d'être testés. Ils ont une boucle de sel fondu qu'ils ont installée dans un de leurs déserts. Donc eux, ils sont, à mon avis, ils vont pouvoir aller aussi à l'export, bien que pour l'instant, il semble que la Chine travaille pour elle. C'est-à-dire qu'elle a un marché intérieur hein, qui est absolument phénoménal, évidemment, et elle a besoin de se décarboner elle toute seule. Quoi. Donc, bon, à voir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs pays. Il y a le Canada aussi qui, eux, ont l'air de partir plutôt sur les sels fondus. Donc, de se dire... chacun a sa stratégie, en fait. Hein, on le voit bien. Hein, et il y en a qui courent après tous les lièvres. D'autres qui se disent, bah, je ne suis pas trop en avance, donc je vais me mettre sur quelque chose d'un peu plus long terme pour être peut-être le premier à aller dans quelques années. Bon, bref, ça dépend un peu des stratégies.
Quel est l'intérêt, admettons que justement les SMR se développent, quel est l'intérêt sur un système électrique d'avoir des SMR ? Est-ce que ça permet, est-ce qu'ils vont être pilotables ? C'est-à-dire on sait qu'effectivement il y a des énergies comme l'éolien, le solaire dont on n'a pas tout le temps, donc pour équilibrer le réseau il faut que prennent le relais d'autres sources d'énergie. Aujourd'hui c'est souvent le gaz. Est-ce que ces technologies ou le nucléaire, est-ce que ces technologies-là sont particulièrement pilotables, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur un bouton et tout de suite on a de l'électricité ou de la chaleur, et est-ce qu'ils sont, enfin voilà, quelle place ils pourraient avoir dans un réseau électrique?
Alors oui, alors c'est toujours la même chose. Moi, imaginons hein, sur le sol français toujours que dans quelques années on n'ait plus autant d'intérêt pour ce gros réseau national que nous avons, réseau électrique, et que chaque région effectivement a ses sources de d'électricité. Effectivement, tous les SMR, je dirais que ça fait partie des exigences. Les exigences des SMR, c'est un, d'être flexible, de pouvoir s'intégrer dans un mix énergétique avec des énergies renouvelables intermittentes. C'est d'utiliser les matières premières, mais ça, on en parlera peut-être juste après. Mais en tout cas, la flexibilité est une des exigences fondamentales, en plus de la sûreté, de la non-prolifération, du coût, etc. Donc, effectivement, tous les SMR sont pilotables, sont flexibles. Et on se dit que, finalement, si on arrive à ce que le coût diminue, parce que finalement, la pilotabilité du nucléaire, elle est un peu désastreuse, dans le sens où, comme c'est une électricité pas chère, si vous l'arrêtez, c'est quand même dommage. Donc en fait, c'est pour ça l'idée de dire on met le nucléaire en base, bah parce qu'en fait c'est vraiment l'électricité la moins chère possible avec le parc qu'on a aujourd'hui, je dis bien. Hein. Donc l'idée, tout le monde va vous dire hein, dans la filière nucléaire, mais arrêtons de faire piloter que les gros réacteurs soient flexibles, parce que finalement il vaut mieux qu'ils soient en base, puis après on ajuste avec le reste, avec du gaz ou avec ce que vous voulez. Mais le fait qu'il est rentable, ce parc, on a une électricité qui coûte rien, autant qu'elle soit en base. Si on est dans un autre cadre, vous avez des régions qui, effectivement, vont avoir de très grosses proportions d'énergie renouvelable. Dans ces cas-là, avoir un SMR à côté pour compenser l'intermittence, c'est pas stupide, quoi. Ça peut permettre, justement, d'être cette variable d'ajustement sur des ENR un peu plus dans des régions où il y en a un peu plus que la moitié du mix, quoi.
Dernière question qui va presque être un exercice de style tellement elle est difficile. Donc on a beaucoup parlé de l'allongement de la durée de vie des centrales, des EPR et des SMR. Donc effectivement, on disait tout à l'heure que la quatrième génération, c'est aussi des technologies qui n'existent pas ou qui sont en développement aujourd'hui. Vous les avez listées, sel fondu, neutrons rapides, voire très hypothétiquement, et là encore plus lointain, la fusion nucléaire. Est-ce que en deux minutes, vous pouvez essayer d'expliquer les intérêts, les dates, les espoirs de développement de chacune de ces technologies? Et c'est, enfin, qu'on comprenne, sans rentrer évidemment dans la physique, pourquoi, quel intérêt des sels fondus, quel intérêt des neutrons rapides et de la fusion nucléaire.
Alors, les neutrons rapides, c'est j'utilise beaucoup mieux ma matière nucléaire, mon combustible, mon uranium. J'utilise, au lieu d'utiliser que le 0,7%, j'utilise tout le reste. Et là, je fais ce qu'on appelle le nucléaire durable. Ça veut dire que je fais attention à mes matières premières, je n'ai plus besoin des mines, parce que, par exemple, en France, on a plus de 350 000 tonnes d'uranium 238, appauvri, qui est en stock un peu partout sur les territoires et qui permettrait de faire du neutron rapide. Dans le neutron rapide, c'est vraiment ça l'intérêt. Ça permet de partir pour des milliers d'années d'électricité, parce que vous utilisez tout le potentiel de l'uranium. Ça, c'est vraiment son enjeu capital. Nous étions les leaders il y a 20 ans. Nous avons construit Phoenix, Super Phoenix, Rhapsody avant, mais surtout Phoenix et Super Phoenix. Donc des
centrales test, entre guillemets.
Test, absolument, des prototypes qui sont allés jusqu'à être reliés au réseau et produire de l'électricité pour Super Phoenix. Et donc, du coup, vous pouvez vous imaginer qu'en France, on a quand même encore des compétences, bien que la plupart, beaucoup soient partis maintenant en retraite quand même. On a encore sur le territoire de belles compétences. Donc ça, c'est un atout, finalement, pour la France. Donc je crois qu'il faut absolument repartir très très vite, aujourd'hui, sur les neutrons rapides.
En un mot, pareil, pourquoi l'avoir abandonné ?
C'était un choix politique. Vous avez sûrement lu l'actualité, les commissions d'enquête parlementaires. Ça a été un choix politique à un moment donné. On avait décidé d'arrêter le nucléaire, donc il n'y avait pas besoin de nucléaire durable. Donc on a arrêté tout et on a arrêté Super Phoenix. Si on veut une énergie abondante à un coût intéressant sur des milliers d'années, vous n'avez pas le choix, il faut passer au nucléaire durable, parce que bien que nous ayons encore des réserves sur la planète en uranium 235, si vous voyez une multiplication par deux ou même à rester à production constante au niveau mondial, vous avez à peu près 100 ans de réserve. Bon, donc c'est pas durable, on est bien d'accord. Donc si vous voulez faire du nucléaire durable, même au niveau mondial, il y a un moment donné, il faut passer maintenant pour pouvoir avoir un premier prototype à nouveau construit en France et pouvoir industrialiser derrière. Il faut commencer maintenant à construire le nouveau réacteur à neutrons rapides sur le sol français. Ça, c'est pour les neutrons rapides. Les sels fondus, c'est une...
Donc, pardon. Hypothétiquement...
Vous avez dit deux minutes, alors.
non, mais pour qu'on comprenne bien les enjeux, à quelle date on pourrait voir si jamais toute la filière se mettait en ordre.
Alors, on est en 2025. Je dirais que après, ça dépend de plein de choses, mais je pense qu'en 15 ans, on peut avoir un prototype.
Oui, donc c'est pas non plus... c'est tard dans le sens où il faut évidemment pour le climat qu'on ait eu des actions d'ampleur bien avant, donc compter simplement sur ces technologies-là, c'est tard.
C'est pas...
Mais
c'est...
prototype plus industrialisation, ça nous mène 20, 30 ans peut-être.
Donc
ça,
non, 20 ans.
Non, mais ça veut dire que c'est des technologies qui sont voilà, dans une deuxième phase.
Oui,
disons,
oui, tout à fait.
Sur l'aspect climatique.
Non, non, mais de toute façon, hein, la stratégie, il me semble, aujourd'hui, elle est claire. Elle est de continuer avec les parcs existants, mais de commencer aujourd'hui la construction et les prototypes des autres filières de manière à pas avoir un creux, hein, et de se retrouver avec plus d'énergie. Donc ça, je pense qu'on ne fera pas demain un réacteur à neutrons rapides, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut le commencer tout de suite. Et il y en a certains qui disent que c'est pas la peine. Ça, c'est faux. C'est vraiment absolument faux. Il faut commencer tout de suite. Les sels fondus, alors ça, je trouve que c'est très élégant. J'aime bien l'élégance en physique, et d'ailleurs l'élégance toute simple. C'est une belle image, c'est une belle idée, parce qu'en fait, le combustible est liquide. Donc, vous n'avez plus de fusion de cœur, puisqu'il est déjà liquide. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, il y a plein de problématiques et de recherches encore, des verrous technologiques sur le combustible, notamment si vous utilisez des sels chlorure, ce que proposent les AMR français. Donc là, il y a des problématiques de corrosion, de sels qui sont très agressifs, etc. Donc il y a encore des recherches et développements à faire. Mais il est très sympathique parce que justement, il évite la fusion. Le cœur est liquide, quoi. Donc ça peut être intéressant.
L'intérêt, c'est plutôt la sûreté pour les sels fondus.
Alors, c'est pas que, parce que en fait, les idées du sel fondu aujourd'hui, c'est aussi des neutrons rapides. Simplement, c'est le caloporteur. C'est le combustible qui est. On change le combustible et on change aussi la réaction en chaîne. Donc, vous voyez, c'est deux étapes. Aujourd'hui, on a une réaction en chaîne avec des neutrons thermiques et avec de l'eau. Voilà, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Les neutrons rapides, comme je vous ai dit, les réacteurs à neutrons rapides, j'aurais dû le dire, caloporteur, sodium ou plomb. Là, vous êtes sur une réaction en chaîne en neutrons rapides et vous prenez un caloporteur métal fondu. Et le métal fondu est beaucoup plus efficace pour évacuer la chaleur. Donc c'est intéressant, en plus d'avoir un combustible qui permet d'utiliser tout l'uranium. Le sel fondu, vous allez plus loin, vous changez encore le combustible plus le caloporteur. Donc tout ça, vous voyez, ça met des étapes de recherche et développement et de qualification par l'ASN, par l'autorité de sûreté, en plus par rapport aux étapes. Mais on est toujours en neutron rapide sur les sels fondus proposés par les Français. Ça veut dire que vous pouvez utiliser toute la potentialité de l'uranium et vous pouvez aussi utiliser les actinides mineures. Qui sont aujourd'hui, on les met dans les verres, ce sont des déchets aujourd'hui. On pourrait les utiliser parce qu'avec des neutrons rapides, vous les cassez, quoi. Donc c'est assez facile. Donc quand vous utilisez des neutrons rapides, c'est intéressant pour les matières premières et les déchets. Ça réduit les déchets et ça réduit le besoin en matières premières. En plus, les sels fondus, ils ont une idée intéressante sur la sûreté puisque votre combustible est liquide. Donc ça, c'est la deuxième... Voilà, et ben c'est tout, je crois.
Emmanuel Galichet, un grand merci d'être venu au micro du Green Inter Club.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.